Vous écoutez RTL.
Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche.
RTL.
Tu prenais du plaisir à faire tes ronds dans l'eau.
La curiosité est un vilain défaut.
Envie de l'eau que vogue leur bateau.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
En musique, on va vous parler de l'eau ce soir. C'est un geste si simple que l'on n'y pense même plus, ouvrir le robinet pour se servir un verre d'eau. Pourtant, quel travail pour nous fournir de l'eau potable. Ce cycle de l'eau, c'est ce que l'on vous raconte à l'occasion de la COP21, évidemment, avec nos invités. Marlys Massé, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Et Kader Gaïd, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes docteur et sciences, chef de département à la direction technique et performance chez Veolia. Wow. On a tout dit. Ah, ça calme.
Super.
Est-ce qu'on peut évaluer la durée de ce cycle de l'eau? Combien de temps met une goutte de pluie pour arriver dans mon verre? Marlys Massé, est-ce que c'est possible de répondre à cette question?
Non, c'est une question simple, mais on ne peut répondre que beaucoup plus compliqué. Mmh. Alors, je vais quand même essayer de faire simple. Le renouvellement de, par exemple, d'un lac, ça va mettre 17 ans. Une rivière, ça va mettre 16 jours. Un glacier, entre 2000 ans et presque 10 000 ans. Vous voyez, c'est très différent.
Ouais, donc, les cycles sont variables en fonction du sol, du terrain.
Tout à fait.
Tout à fait. Va tomber. La France est un climat de pays tempéré, donc bien arrosé. On n'est pas en pénurie d'eau, on n'a pas de soucis de ce côté-là.
Alors, de manière générale, hein, on peut parler de la France en règle générale. On n'a vraiment pas de problème. On a beaucoup d'eau. On a beaucoup d'eau qui tombe, que ça soit en précipitation, évaporation, etc. Par contre, on s'en aperçoit tous. Hein. Depuis quelques années, il y a des sécheresses, il y a une inégalité, je dirais, locale, plutôt que ça soit par rapport aux saisons ou que ça soit une région. Et puis, parce qu'il y a une différence aussi des usages qu'on fait de l'eau. Par exemple, dans le sud-ouest, on a très souvent de l'agriculture qui vient un peu se confronter en plein été au tourisme, par exemple, et il faut fournir de l'eau pour tout le monde.
Beaucoup donc plus d'eau à fournir.
Un peu compliqué.
L'eau qui tombe du ciel, la pluie, ça va où? Dans les nappes phréatiques?
Je dirais que ça va à plusieurs endroits. D'abord, toute l'eau qui tombe, à plus de 60%, elle s'évapore déjà. Et elle retourne tout de suite dans le cycle
dans
de l'eau.
Dans les nuages.
Dans les nuages. Et donc, on aura à peu près 40% de l'eau qui va aller soit dans nos eaux souterraines, soit alimenter les cours d'eau.
Donc, les eaux souterraines, c'est ce qu'on appelle les nappes phréatiques, c'est ça?
C'est les nappes phréatiques. Et ce qu'on appelle, nous, techniquement, les eaux de surface, les eaux superficielles, eh bien, c'est les lacs, les fleuves, les rivières. Mmh.
Combien on consomme d'eau par habitant et par jour aujourd'hui?
Actuellement, à peu près 148 litres d'une manière domestique, c'est-à-dire vous, quand vous vous lavez, quand vous faites votre lessive, etc.
Ça a baissé depuis une dizaine d'années?
Oui, ça a un peu baissé pour deux raisons. D'abord parce qu'on a un électroménager qui est beaucoup plus performant et ça nous permet de faire des économies d'eau, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Et puis c'est vrai que depuis 2003, on connaît aussi régulièrement des sécheresses, ce qui frappe un peu l'esprit des gens, même beaucoup. Et donc les gens font des économies d'eau. Ils sont un peu plus écolos qu'avant. On fait très, très, très attention aussi à sa consommation.
Et puis j'imagine que c'est aussi grâce à une meilleure surveillance du réseau et de ses fuites, Kader Gaïd?
Alors,
cette économie?
L'économie
d'eau
du réseau. Ouais. Vous savez, il n'y a pas trop de lien entre la consommation d'eau et le réseau et les fuites dans le réseau. Le réseau, c'est mécanique. La consommation d'eau, c'est individuel. Mmh. Chacun va consommer, va prendre son bain deux fois, trois fois par jour, va mettre sa machine à laver autant qu'il veut. Donc, vous voyez, il n'y a pas trop de lien. Et à ce moment-là, effectivement, la consommation d'eau, par rapport au réseau, il ne faut pas en tenir compte. C'est par rapport, ce que disait Marlys, les moyens, les nouveaux moyens mis en œuvre. La machine à laver, le lave-vaisselle, le lavage de la voiture, l'arrosage du jardin, c'est tous ces paramètres qui vont tendre vers une consommation d'eau.
On va continuer de vous raconter ce cycle de l'eau. L'eau tombée du ciel, il faut la capter, la traiter, l'acheminer. C'est long et c'est forcément surveillé.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est l'un des thèmes majeurs de la COP21 qui se tient jusqu'au 11 décembre à Paris. L'eau, cette ressource vitale, est si mal partagée sur la planète. On vous raconte le cycle de l'eau avec Marie-Lise Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau, et Kader Gaïd, doctoresse science, chef de département du département de la, à la direction pardon, technique et performance chez Veolia. Kader
Gaïd, vous avez des titres à rallonge, ils sont compliqués à mémoriser.
Nous, c'est plus court. Kader Gaïd, il y a différentes étapes dans ce cycle de l'eau. Il y a le captage pour commencer.
Alors, il y a le captage, effectivement.
On attrape l'eau, c'est ça ?
On attrape l'eau. Alors, il y a deux types d'eau, hein. Comme le disait Marine, il y a les eaux de rivière, les eaux de lac. Là, on les voit, on va les pomper. Donc, et puis, il y a les eaux souterraines que l'on va pomper, justement, pour les ramener à la surface et les traiter.
Ça fait deux stations différentes ou ça se fait au même endroit ?
Ça fait deux stations différentes, hein, selon la localité. Et ces eaux-là ont des compositions chimiques différentes et on va les traiter différemment. Donc chez Veolia, justement, nous avons des techniques appropriées aussi bien pour les eaux souterraines et puis les eaux de surface.
C'est-à-dire qu'il y a des eaux qui sont plus, je sais pas, calcaires, d'autres
qui sont,
je sais pas,
des elles sont plus contaminées, on va dire. Voilà. Ouais. Les eaux de surface, on en parlera si vous voulez plus en détail. Vous allez trouver les pesticides, les nitrates, des substances humiques, de l'arsenic de temps en temps, etc. Alors dans les eaux souterraines, ce sera les eaux qui ont lessivé les sols, qui sont infiltrés et qui peuvent contenir des nitrates, des pesticides, et puis géologiquement, naturellement, par exemple, de l'arsenic.
Ah oui.
Vous avez l'air de dire que c'est normal.
Oui, c'est normal. C'est
un choc.
Mais c'est normal, c'est géologique. Donc la Terre contient un certain nombre d'éléments, sélénium, arsenic, plomb, fluorure, etc., que justement on va traiter.
Alors,
donc,
voilà.
Et Veolia a mis en place
votre
un
boulot après,
de
c'est de les traiter. D'accord.
Voilà. Et de les consommer, de pouvoir consommer cette eau-là.
Rassurez-vous. C'est Denis, il n'y a plus d'arsenic.
N'essayez pas d'empoisonner, Thomas, avec ce verre d'eau que vous m'avez servi.
On a des très jolis verres d'eau sans arsenic.
Oui, vous avez vu, on a du verre, hein, pas du plastique.
Ça ressemble à quoi une usine de traitement de l'eau pour la rendre potable ?
Alors, effectivement, en fonction de la contamination qu'elle a eue, l'usine d'eau potable, c'est une spécificité d'un traitement avec un certain nombre d'ouvrages qui vont, pour chacun de ces ouvrages, pour chacune de ces technologies, enlever la part de contamination qui le concerne.
C'est-à-dire, par exemple, c'est des filtres ?
Ça peut être des filtres, ça peut être des oxydants chimiques, ça peut être de la coagulation-flocculation. Alors, qu'est-ce que c'est que la coagulation-flocculation ?
Voilà. Vous avez vu notre regard s'ouvrir tout grand, là.
C'est pas une coagulation. On le fait systématiquement.
Ouais.
Dans les eaux de surface, vous avez des microparticules qui sont, je suis désolé du terme, électriquement neutres. Ça veut dire qu'elles ne s'agglutinent pas entre elles et elles restent en suspension. C'est ce qu'on appelle la turbidité de l'eau. Donc, pour les déstabiliser électriquement, on va ajouter des réactifs chimiques à l'intérieur.
Et donc, ces petits résidus,
vont se coaguler.
D'accord, se réunir. Et du coup, on peut les filtrer.
Et à ce moment-là, on peut les filtrer.
Mais moi, ce qui
vous avez tout compris.
Ce qui est un peu étrange,
c'est que vous voyez que c'est simple, très simple.
Vous expliquez bien.
Pour moi, l'eau, c'est quelque chose de pur.
Oui.
Et là, vous me parlez de produits chimiques. Ça m'inquiète, là.
Au début, mais ces produits chimiques partent avec les substances qu'on a éliminées. Et donc, dans l'eau, il ne subsiste plus les réactifs chimiques qu'on en a introduits.
D'accord.
Il y a quoi ensuite ? Il y a la filtration,
alors,
c'est
après,
ça ?
Alors, donc, il reste encore une eau qui contient des micro-impuretés. Et on va la filtrer sur une filtration sable, comme les eaux de piscine. Vous voyez, on filtre l'eau pour la clarifier. Et donc, on va faire une filtration.
Au sable ?
Ensuite, au sable, il y a différents matériaux. Mmh. Il y a du charbon actif pour éliminer des pesticides, des problèmes de goût, d'odeur. Il y a le sable. Et puis, enfin, il y a la désinfection. Celle qu'il ne faut jamais oublier, la désinfection. C'est là qu'on met du chlore. Ou de l'ozone.
Oui.
Ou maintenant, de plus en plus aussi, des rayonnements UV. Les rayonnements UV, ça permet de désinfecter l'eau.
C'est ce qui donne le goût à l'eau, en fait, c'est ça ?
10 secondes pour vous l'expliquer.
Ouais, dites-nous.
Ah non, les UV ne donnent jamais de goût à l'eau.
Alors, c'est le chlore, alors.
Ça ne la bronze pas non plus,
voilà,
on est d'accord ?
Voilà, ça ne la bronze pas.
Voilà, alors, ça c'est
alors,
fait.
Attends, on va trop vite. Les UV, comment ça marche ?
Alors, c'est très simple. L'UV, il a une longueur d'onde, c'est 254 nanomètres. La bactérie, elle a un ADN qui est à 254 nanomètres. Donc, quand elle passe, elle prend un rayonnement UV qui détruit son ADN, son génome. Et à ce moment-là, il est inactivé. C'est la désinfection.
D'accord, ça, on a compris.
Ça, Star Wars.
Et donc, c'est bien le chlore qui donne du goût à l'eau, c'est ça ? Parce que nous, quand on boit l'eau du robinet, souvent, c'est ce qu'on sent en premier.
Moi, j'aime pas trop ce mot de goût.
Ah bah oui, mais bon.
À l'eau, ça a un goût.
Ça, c'est une réaction de consommateur. Oui. Hein.
L'eau a un goût. Les eaux ont des goûts.
Vous avez bien appris, quand vous étiez à l'école, que l'eau doit être limpide, inodore et incolore.
Ben oui, on aimerait bien, mais ça a
bien
un
sûr.
Goût.
Oui. Ça dépend. Oui, alors, c'est-à-dire, une eau souterraine n'aura pas de goût, parce que le chlore, effectivement, il a un goût pour certains. Mais vous savez, il y a des goûteurs qui existent, hein, chez Veolia.
Ah oui, c'est vrai,
il y a
c'est
des drôle. Spécialistes. Ah oui, des goûteurs d'eau, dans laquelle nous sommes assez experts dans ce domaine-là, et qui vont vous donner une note à l'eau. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et l'eau, en tout cas à Paris, hein, celle que produit Veolia, c'est 1 à 2, donc c'est le minimum. Mais c'est un goût qui n'est pas néfaste pour la santé. C'est important. Ah bah oui, c'est quand je vais à l'étranger.
Elle est propre à la consommation, oui.
La première des choses que je fais, quand j'ouvre le robinet, est-ce que je sens le chlore ou pas? Quand je le sens, ça me rassure.
D'accord,
parce
bien
que
compris.
C'est-à-dire qu'elle est bien désinfectée.
Marie-Smassé.
Mais vous savez, le goût, ça peut être aussi dû tout simplement aux oligo-éléments et aux sels minéraux. Parce que ce qu'on oublie quand même, c'est que l'eau du robinet, elle est comme toutes les eaux, elle en contient. Mm-hmm. Et donc, c'est ça aussi qui peut donner un goût. C'est-à-dire que l'eau du robinet est une eau de terroir qui passe dans des sols et dans des terrains. Et ça aussi, ça peut lui donner un goût au-delà du fameux chlore. Alors, un conseil pour enlever le chlore, c'est très facile. Vous aérez votre eau. Vous prenez une carafe, vous mettez l'eau dedans, vous aérez une heure et vous n'avez plus ce goût que beaucoup trouvent désagréable.
Ce que j'apprends, c'est que c'est bon pour la santé aussi, l'eau du robinet, alors. Mais parce que moi, je croyais que c'était dépourvu, de tout oligo-élément.
Non, c'est ces minéraux et ces oligo-éléments, justement, on fait très attention à ce qu'ils soient normés, dosés, justement, pour que tout le monde puisse boire cette eau du robinet sans danger. C'est très bon pour vous, et notamment le calcaire, c'est magnésium-calcium, donc c'est parfait à zéro calorie, c'est parfait.
Marie Smassé, dans ces 148 litres d'eau par jour et par personne en France, il y a énormément, une part très importante de la toilette, la douche, le bain, les sanitaires. Est-ce qu'on peut donner des conseils tout simples pour économiser l'eau en la matière?
Alors, je crois déjà qu'on peut aller au-delà du verre, enfin, vous savez, du robinet qu'il faut fermer quand on se lave les dents. Ça, je pense que c'est le ticket d'entrée des gestes écolos. Mais il y en a bien d'autres qui sont beaucoup plus efficaces.
Par exemple.
Et je pense notamment à la chasse aux fuites. Parce que nous aussi, on peut chasser les fuites. Je vous donne deux exemples. Vous laissez un robinet goûter toute l'année, 35 000 litres perdus, 180 euros de perdus. Vous laissez une chasse d'eau couler toute l'année, 220 000 litres.
220 000 litres,
800 euros de perdus. Donc voilà, ça c'est des exemples pour faire attention à son économie d'eau. Je dirais aussi qu'il y a une autre économie à laquelle on pense pas, qui est un peu parallèle, c'est vrai, c'est qu'on mange beaucoup plus d'eau qu'on en boit. Vous savez que pour faire n'importe quel produit, que ce soit une voiture dont vous parliez tout à l'heure, ou une tasse de café, il va falloir de l'eau derrière pour produire, pour entretenir les structures agroalimentaires qui vont faire tout ça. Et là aussi on peut faire des choix. Par exemple, vous buvez une tasse de café, 130 litres d'eau ont été dépensés avant. Vous buvez une tasse de thé, vous êtes aux alentours de 40 litres dépensés pour faire cette tasse de thé. Donc là aussi, on peut faire des choix d'alimentation qui permettent de faire des économies d'eau.
Alors notre eau, elle est traitée maintenant. Il faut maintenant évidemment l'acheminer grâce à un réseau de canalisation gigantesque. Tiens, un dimanche au bord de l'eau, ça vous dit?
Ça tombe bien.
On y va avec Michel Berger.
Il y a cette vie qui m'appelle.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue.
RTL.
À qui les bolles des billets? À qui les lèles des billots? Des billets si beaux, des billots si laids. S'il est un des bibots, c'est bien le beau des billets.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'eau qui a évidemment inspiré les plus grands ce soir sur RTL. On vous raconte le cycle de l'eau avec Marie-Lise Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau, et Kader Gaïd, qui est chef de département chez Veolia. L'eau, elle a donc été captée, par exemple, dans une rivière, dans un lac, traitée pour devenir propre à la consommation humaine. Faut maintenant l'acheminer jusqu'à nous. Le réseau d'eau potable, Marie-Lise Massé, c'est combien de kilomètres en France?
Eau potable, c'est 900 000 kilomètres, c'est-à-dire 2,5 fois la distance Terre-Lune, à peu près l'équivalent de notre réseau routier. Mais si, vous pouvez.
Il y a autant de canalisations d'eau que de routes nationales, départementales, et etc. C'est impressionnant.
Oui. Et en plus, vous devez rajouter à peu près 700 000 km pour les canalisations d'eau usée. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de tuyaux, tout ça, et c'est notre patrimoine, hein, il nous appartient, on l'a évalué à plusieurs milliards, donc c'est vraiment un investissement de toute la communauté.
Vous dites
française.
C'est notre patrimoine, ça veut dire que ça appartient à qui?
Ça appartient
aux canalisations.
Les canalisations, ça appartient aux communes et au-delà à nous, puisque c'est nous qui les avons payées au travers nos factures le plus souvent et au travers aussi des aides qui sont données par les agences de l'eau.
Mmh. Kader Gaï, qui contrôle ces canalisations? Qui les surveille?
Alors, nous contrôlons, Veolia par exemple, contrôle les canalisations qu'elle opère. Veolia opère aujourd'hui, contrôle 200 000 kilomètres en France de canalisations sur les 900, 950 000 qui existent. Alors ces canalisations, ce qu'on appelle le réseau d'eau potable. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on descendait pour vérifier les fuites, pour vérifier ce qui se passait. Et aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle les réseaux intelligents.
Ça veut dire quoi, des capteurs?
C'est exactement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau intelligent? C'est une association de solutions techniques, de systèmes informatiques et de technologies de l'information qui, associées ensemble, vont générer des banques de données, des données dans lesquelles on va opérer immédiatement. Pour vous donner une image, imaginez que vous avez un frigidaire intelligent.
On en parlait hier, objets connectés, là-dessus.
Il va vous dire, voilà la date de limite de consommation de vos yaourts, de vos œufs, etc. Et vous allez intervenir tout de suite, vous allez gérer, justement, avec les réseaux intelligents. Pardon?
Donc vous avez des canalisations connectées?
Alors, on a des capteurs, des capteurs, qui nous permettent de gérer au temps T tout ce qui peut se passer dans le réseau. Ça permet à l'opérateur d'intervenir immédiatement. Ça permet de changer de réseau, d'intervenir sur une transformation et surtout de vérifier la qualité de l'eau et de la contrôler.
Mais il y a des hommes quand même. Il y a des hommes qu'on appelle quoi? Les fontainiers, c'est ça? C'est encore le terme?
Les fontainiers, il y en a encore, bien sûr, mais ils sont maintenant derrière des ordinateurs.
D'accord.
Voilà, on a modernisé le système qui vont permettre d'intervenir après, bien sûr. Il y a l'information. Et puis après, il y a l'intervention. Et à ce moment-là, avec les élus, pour les changements de réseau, pour les réparations de fuites, etc. Mais je voudrais surtout mettre l'accent sur le contrôle de la qualité de l'eau. Parce que la protection du consommateur, c'est la première des choses. C'est le premier objectif chez des entreprises comme Veolia. Et donc, ce réseau intelligent lui permet à tout moment, grâce à ses capteurs, d'en contrôler. On va en mettre, par exemple, 6 000 à Lyon. Vous savez qu'on exploite des grandes villes comme Marseille, Lille ou Lyon. On va en mettre plus de 6 000 pour le contrôler et donner aux tentés, justement, cette information.
On a bien compris que c'était un service qu'on payait sur nos factures.
Oui.
Marie-Lise Massé, qui fixe le prix de l'eau en France?
C'est le maire d'une commune ou c'est le président quand les communes sont regroupées en intercommunalité, en groupement de communes. C'est lui qui fixe les tarifs.
C'est pour ça qu'il y a des tarifs différents d'une ville à l'autre. On ne peut pas imaginer un tarif national?
Non, parce que c'est pas, ça ne serait pas très juste. Ouais. Pourquoi? D'abord, comment fait-on un prix?
C'est en fonction du travail qu'il y a derrière, j'imagine.
On ne paye que le travail. Ouais. L'eau, vous ne la payez pas. L'eau est gratuite. C'est tous les services qui sont autour que vous payez. Et bien évidemment, plus un service sera compliqué, par exemple parce que l'eau sera très polluée ou parce que géographiquement, il faudra aller la chercher dans un endroit très... plus compliqué, ou parce que l'habitat est dispersé, donc il vous faut plein de canalisations, justement, pour couvrir toute cette population dispersée, ou parce que vous êtes dans un endroit touristique et que, dans ce cas-là, vous ne payez pas des infrastructures pour une taille de 2000 personnes, mais pour les gens qui vont arriver au mois d'août, ils vont être 10 000, 20 000, il faut faire en conséquence. Vous voyez, donc, il y a plein de raisons qui font qu'un prix est différent d'une commune à l'autre.
Alors, pour bien comprendre, j'imagine qu'il y a un système d'appel d'offres dans toutes les communes entre les grands acteurs du secteur. Donc, il y a évidemment Veolia, la Lyonnaise des Eaux, la SOR. Il y a un appel d'offres, c'est ça?
Oui, alors, il y a des appels d'offres, bien sûr.
D'abord, il faut savoir qu'un maire restera toujours responsable de son service public d'assainissement ou d'eau potable.
D'accord.
Après, il a également le choix et la liberté de choisir de mettre son service public soit en régie, soit de le confier à une entreprise qu'on appelle les entreprises de l'eau. Mettre en régie, c'est-à-dire que vous avez une infrastructure qui est publique. D'accord. Mais de toute façon, toutes les infrastructures resteront la propriété de la commune. Voilà. Et pour avoir une entreprise, effectivement, il faut passer des appels d'offres, il faut répondre à des contrats, et le maire contrôle toujours son service.
Kader Gaïd, sur ce prix de l'eau.
Oui, je voudrais intervenir.
Dites-nous rapidement. Alors.
Merci, oui, rapidement.
Parce qu'il y a une petite coupure. Ou alors, tiens. On vous entendait. Vous aviez envie de parler du prix de l'eau, parce qu'évidemment,
c'est important. C'est une question qui vient très souvent
pour les consommateurs. C'est une question centrale. On y répond dans un instant.
Très bien.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La COP21, c'est jusqu'au 11 décembre à Paris, et la question de l'eau est évidemment au cœur des discussions des experts et des représentants de gouvernements venus de 150 pays. L'eau qui est une ressource fragile, comme nous l'expliquent nos invités Marie-Lys Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau, et Kader Gaïd, chef de département, la direction technique et performance chez Veolia. Kader Gaïd, on parlait de cette eau qui n'a pas le même goût, c'est vrai, mais pas le même prix non plus en fonction des communes. Comment on explique cette différence de prix? Vous vouliez nous en parler.
Alors, je vais vous expliquer très simplement. C'est vrai que dans de nombreuses cultures, et on peut le penser, que l'eau, c'est un don de Dieu. Donc, ça doit être gratuit. Donc, pourquoi la payer? Parce qu'elle doit être gratuite. Et entre parenthèses, comme le dit le président, notre président Antoine Frérot, vous pouvez prendre un seau d'eau, aller dans la Seine et faire de l'eau potable.
Ouais.
Personne ne vous dira rien. Ça va vous coûter. Et bien, c'est ce que nous faisons. Nous prenons l'eau, nous la transportons, nous la traitons et nous la redistribuons.
Donc c'est le service qu'on paye.
C'est le service que nous payons, que je paye moi également. Et puis associé, il y a également l'eau usée.
Nous allons collecter
les eaux usées, les eaux rejetées. Lorsque nous avons utilisé l'eau, nous l'avons donc usée.
Celle qui tombe de l'évier.
Tout à fait, les toilettes.
Les toilettes aussi, bien sûr.
Exactement.
Hein.
Donc nous l'avons usée, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'eau usée, et qui est rejetée. Mais nous allons la collecter, la traiter et la rendre à la nature beaucoup plus propre. Donc c'est tout ce service.
Ça, c'est pas le même circuit que celui que vous avez décrit tout à l'heure, c'est ça?
C'est deux circuits différents.
D'accord.
L'eau potable est pompée dans les rivières ou dans les eaux souterraines, et l'eau usée que nous avons consommée, nous la rejetons dans l'eau de rivière. Mais il faut qu'elle soit la plus propre possible. Et tout ceci...
Donc vous la récupérez aussi et vous la traitez aussi.
Mais vous faites des bénéfices quand même.
Oh bah oui.
Parce que vous dites que c'est un service.
On ne paye pas que le service.
Il faut bien convivre, bien sûr. Chacun a son métier. Bien sûr, il faut bien vous rémunérer, bien entendu.
Quand vous allez chez le boulanger, il faut bien qu'il vive, lui aussi, quand il va vous entendre. C'est normal. Voilà.
Marie-Lys Massé, on dit souvent que les Français sont des buveurs mixtes. Ça veut dire quoi, ça?
C'est pas une insulte?
Ou c'est pas une pratique sexuelle non plus? Ça veut dire quoi?
Non, ça veut dire tout simplement qu'ils boivent quasiment autant d'eau du robinet au quotidien que de l'eau en bouteille. Mais quand même avec une préférence, ils sont 75% à avoir cette pratique de mixité. Et ils sont quand même plus favorables à l'eau du robinet, puisqu'ils sont plus de 6 Français sur 10 à en boire, alors qu'ils sont beaucoup moins à boire de l'eau en bouteille. Voilà. Et cette mixité, ça dépend beaucoup où ils sont, s'ils sont chez eux, en dehors, en voyage, etc.
Alors, on va prendre un peu de temps quand même pour parler de la sécurité de ce réseau, parce que alors peut-être que ça n'a rien à voir avec l'eau, mais on a entendu la semaine dernière le Premier ministre Manuel Valls parler de risques bactériologiques. Oui. Est-ce que les réservoirs d'eau sont protégés, et si oui, comment?
Alors,
en France,
il y a deux points. Il faut protéger le réseau et il faut protéger les réservoirs. Les réservoirs, c'est une protection d'abord humaine. Vous savez, depuis toujours, Veolia, vis-à-vis des réservoirs, vis-à-vis des postes de distribution d'eau, nous avons un plan strict, justement, de vigilance. Depuis 2000, donc ça fait 15 ans, j'ai présidé une commission qu'on appelait commission bioterrorisme. C'est-à-dire que nous avons anticipé, il y a déjà plus de 15 ans, la possibilité que quelqu'un puisse déverser dans une canalisation un produit chimique toxique.
Alors c'est quoi la parade?
Les réseaux intelligents, les capteurs que nous avons mis en place, les doses de chlore que nous mettons. Vous savez,
c'est un antidote, le chlore?
Oui. C'est-à-dire, le chlore, c'est un indicateur. Si dans l'eau, il y a une consommation brutale de chlore, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette eau-là. C'est qu'il y a une pollution naturelle ou volontaire. Et à ce moment-là, on intervient immédiatement grâce à notre réseau d'alerte.
Vous intervenez comment ? Est-ce que vous pouvez fermer, par exemple, les canalisations ?
Bien sûr, on peut fermer les canalisations, intervenir, voir analyser l'eau, voir d'où ça vient, etc. Vous voyez, c'est l'anticipation, elle a lieu déjà depuis plus de 15 ans.
Donc ça veut dire qu'il faut rassurer les Français qui ont peur un jour d'ouvrir leur robinet et d'être éventuellement empoisonnés ?
Tout à fait, il faut les rassurer à ce point-là. Et puis, depuis les janvier, déjà, avec le plan Vigipirate. Au contraire, Veolia a accentué à ce moment-là sa surveillance et son protocole de suivi, justement, de cette qualité d'eau. Alors là, moi, franchement, je rassure complètement les Français à ce niveau-là, parce que nous anticipons, nous sommes des viveurs d'eau aussi, donc la contamination peut toucher également tout le monde. Hein, et à ce niveau-là, la toxicité, on aurait immédiatement un indicateur à ce niveau-là.
Il y a, je crois, 51 000 réservoirs d'eau en France, Marie-Lise Massé, c'est ça à peu près. On ne peut pas mettre un gendarme au pied de chacun d'entre eux.
Non,
on est
mais
bien
d'accord. Comme monsieur vient de vous l'expliquer, vraiment, depuis très très longtemps, hein, on fait très attention. Il y a des clôtures qui ont été posées, il y a de la télésurveillance, il y a même du personnel qui est à certains endroits sensibles, qui est très limité, qui est contrôlé, qui est choisi. Donc vraiment, il y a toute une procédure qui est faite. Il y a très souvent, on n'en parle jamais, mais il y a des exercices qui sont faits aussi grandeur nature, hein, pour voir ce qui pourrait se passer. Il faut savoir que l'eau, ça fait partie quand même des choses vitales, et donc c'est protégé, monsieur ne l'a peut-être pas dit, mais c'est quasiment militaire, enfin la sécurité publique, la sécurité militaire ont intégré ce risque pour l'eau. En 2013, il y a même eu la loi programmation militaire qui a encore mis beaucoup plus de sécurité, donc je crois vraiment qu'on peut être pleinement rassuré.
Est-ce que l'eau de nos rivières est polluée, de plus en plus polluée ?
Écoutez, au niveau des pesticides, on voit une absence de pesticides qui ont été interdits. Là, on voit la présence de quelques nouveaux pesticides. Il y a beaucoup moins de nitrates, par exemple. Mais on a des substances humides qu'il y a dans l'eau, qui sont des substances naturelles, qui viennent de la décomposition des végétaux. Et on observe effectivement une présence de plus en plus importante de ces substances.
Ça s'explique comment ?
C'est probablement une décomposition plus rapide. Est-ce que c'est la température ? Est-ce que c'est la pluviométrie qui tend à ces cinétiques plus importantes ? Et l'inconvénient, c'est qu'il faut absolument éliminer ces substances humiques, sinon la chloration peut conduire à des produits cancérigènes. Mais globalement, il y a des nouveaux pesticides, par contre, hein, qui sont apparus sur le marché et qui sont plus compliqués à éliminer à ce niveau-là.
Marie-Lise Massé, là-dessus, dernier mot.
Je pense qu'il faut aussi rajouter quelque chose, parce que la plupart du temps, il y a une confusion entre la mauvaise qualité des ressources, c'est vrai, hein, c'est exact, et le fait que l'eau potable, est de très bonne qualité. Et pourquoi ? Parce que justement, entre les deux, il y a des traitements, des préventions, etc. Donc il faut faire très attention, mais c'est vrai que nos ressources, malheureusement, elles méritent encore beaucoup plus d'attention.
On termine là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'était passionnant, on rappelle évidemment que la COP21 continue jusqu'au 11 décembre et qu'on peut tous, grâce aux conseils que vous nous avez donnés, Marie-Lise Massé, faire attention et économiser l'eau.
Et après les informations, des révélations explosives sur la vie du jeune Louis XVII.